Merci Olivier, merci aux musiciens, merci aux techniciens et merci pour chacun de vous pour la présence ici. Et évidemment, merci au Seigneur de nous avoir réunis. Alors, si vous avez regardé la feuille du mois, vous attendiez à voir Lionel. Alors, pourquoi je suis là ? Tout simplement parce que Lionel a accepté un échange. Je dois me faire opérer de la cataracte et puis je risque d'avoir quelques petits problèmes de vision le 17. Merci Lionel. Alors effectivement, Olivier a fait référence à cette prédication que j'avais faite sur les solas, les cinq solas. Alors je vous propose... Parfait. De lire avec moi le Luc chapitre 18, les 8 premiers versets. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Si le texte. Voilà. Jésus leur dit donc cette parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu, et n'ai d'égard pour personne. Puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juste, le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit ? Les fera-t-il attendre ? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » C'est après avoir répondu aux pharisiens et aux disciples sur la venue du royaume de Dieu au chapitre précédent que Jésus leur dit cette parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. C'est pour illustrer les effets de cette exhortation de Jésus à jamais cesser de prier sans se décourager que je vous avais raconté il y a quelque temps l'histoire de Guillermo, cet enfant abandonné par ses frères dans la forêt. Et comment Dieu avait répondu à ses prières. Vous vous souvenez de cette histoire ? Quelques-uns ? Oui. Si vous ne l'avez pas écouté, si vous n'étiez pas là, je vous invite à revenir sur cette histoire dans le site de l'Église. C'est une histoire extraordinaire, émouvante et véridique. Cet été, je vous ai présenté effectivement les fameux cinq solas, dont le sola scriptura, et puis aussi donc le sola fide. Et puis, ces cinq solas, si vous vous souvenez, correspondent à notre fondement sur notre foi évangélique. Et ces cinq solas, donc cette réforme, a tout récemment fêté son anniversaire le 31 octobre. C'est en effet l'histoire retient que c'est le 31 octobre 1517 que le moine Martin Luther a affiché sur les portes de l'église de Wittenberg ses 95 thèses contre les indulgences. Donc nous avons évoqué cette sola fide La foi seule qui affirme que le croyant reçoit par la foi seule la rédemption accomplie par le Christ Jésus. Je vous propose aujourd'hui donc de prolonger cette réflexion à partir de cette question que Jésus pose. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors pourquoi cette question? Question troublante, bouleversante. Question qui m'interpelle, m'attriste, me fait mal. Alors pourquoi cette question? D'abord, merci Paul. Ça va aller mieux. Voilà, merci Paul. Vous voyez que ces techniciens, ils sont bons. Ah oui, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Définition de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et l'auteur de préciser que c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Et au chapitre suivant, donc le chapitre 12 et au verset 2 également, l'auteur nous dit que c'est Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Et qu'en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y est attachée et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est Jésus, le Fils de l'homme, qui n'a pas hésité à quitter son ciel de gloire pour venir partager notre humanité avec tout ce qu'elle comporte de douleur, de souffrance, de déception. Et c'est ce Jésus qui pose cette question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? On ne peut pas même imaginer ce qu'il a souffert, physiquement, moralement, pour notre salut. Il a tout donné, tout accompli pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, notre Créateur, qui est devenu Dieu, notre Père, en faisant de nous des cohéritiers du royaume de Dieu. Cohéritiers du royaume de Dieu. Jésus est l'objet de notre foi. La question qu'il pose doit être un déchirement parce qu'il correspond probablement, enfin certainement, à un constat douloureux. Vous vous souvenez peut-être que Jésus a pleuré sur Jérusalem, qui refusait d'accepter son message. N'y aurait-il plus de chrétiens ? Ou bien les chrétiens auraient-ils cessé de prier? Délaisseraient-ils les réunions de prière? La foi serait-elle remplacée par la religion? Les églises par des clubs? Autre piste, le grand remplacement sociétal. On assiste à l'inversion des valeurs. Ce qui était mal devient bien, et ce qui est bien aujourd'hui devient mal. La déchristianisation de notre monde fait place à de nouvelles théories liberticides qui tendent à remplacer la loi de Dieu par celle des hommes, dont le cœur est tortueux par-dessus tout. Ce que nous dit Jérémie. Chapitre 17, verset 9. le mouvement LGBT, le wokisme, la liberté des mœurs et même l'encouragement des pouvoirs publics. Exemple, depuis le 1er janvier 2023, les préservatifs des marques Eden et Sortez Couvert peuvent être pris en charge à 100% par l'assurance maladie, sans prescription médicale, pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Et le transgenre, paru dans le Figaro et sur Génétique, le premier site bioéthique. Au Canada, un père de famille a été condamné en mars 2021 à 6 mois de prison. 6 mois de prison, car il s'obstinait à mégenrer sa fille. Mégenrer sa fille. En fait, il n'acceptait pas, et donc il continuait d'appeler sa fille par son prénom, prénom féminin. Après avoir découvert que le prénom de sa fille a été remplacé par un prénom masculin dans les documents scolaires, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Et que dire des pervers qui débattent de la décriminalisation de la pédophilie ? On pourrait développer d'autres raisons dans ces lignes, comme le transhumanisme, mais je vous propose une autre piste ce matin qui nous concerne davantage. Comment peut-on rejeter un si grand salut, acquis avec tant d'amour ? Mais la question, si elle est délicate, elle garde beaucoup d'espoir. La foi subsiste toujours, pour un reste au moins. Et pour ceux qui se sont assoupis, il faut la réveiller. Si la foi, en Hébreux 11, verset 1, et la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a toute une galerie de portraits qui nous rappelle la foi qui a été mise en évidence. Abel, Noé, Enoch, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rab. Et l'auteur qui nous dit « Le temps me manquerait pour parler de tous les autres » où la foi était mise en évidence. Ces hommes et ces femmes ont été tous confrontés à des situations difficiles, parfois dramatiques. Et ils ont dû prendre des décisions, faire des choix qui engageaient toute leur vie. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. L'apôtre Paul écrivait que c'est en espérance que nous sommes sauvés, Romains 8, 24, et qu'il estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparés à la gloire qui va être révélée pour nous. Nous l'avons dit, ces hommes et ces femmes ont dû prendre des décisions. Ils ne sont pas restés passifs. Et leurs décisions se sont transformées en actes. Et c'est ce que nous invite à considérer l'apôtre Jacques. On y arrive. La foi sans les œuvres est morte. Alors, passez à l'action. Lecture de Jacques 2, versets 14 à 26. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques. À quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes ? Lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi était menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin ? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comment recevez-vous ce discours de Jacques ? N'y a-t-il pas dissonance avec ce que dit l'apôtre Paul ? Jacques ne dit-il pas le contraire de Paul qui affirme que l'on n'est pas sauvé par les œuvres ? Considérons l'approche théologique. Peut-on être déclaré juste aux yeux de Dieu par le mérite de nos œuvres ? Est-ce cela que dit Jacques ? Le but que poursuit Jacques n'est-il pas de démontrer que pour être vivant, cette foi a besoin de débouchés, de concrétisation ? Mets en pratique ta foi, dit Jacques. Les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu, mais ils tremblent. Quelle est notre attitude à nous par rapport aux œuvres ? On aurait peut-être tendance à se méfier des œuvres, non ? On a du mal parfois avec les œuvres, pas celles institutionnelles comme la Croix-Rouge, l'UNICEF ou d'autres, mais avec les nôtres, nos propres actions. Première difficulté, on a du mal à les faire. On voudrait tous faire de belles et bonnes œuvres, mais voilà, on constate qu'il y a un écart entre ce qu'on voudrait et ce qu'on fait réellement. Par paresse, par manque d'amour, de sensibilité, ou on ne sait pas trop. En fait, on ne le fait pas. Puis on jette un petit coup d'œil quand même sur les copains, là. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Attention ! Que celui qui voit la paille de son frère prenne garde à la poutre qui pourrait se trouver dans son propre œil. Deuxième difficulté. On a du mal à les intégrer à leur juste place. En tant qu'évangélique, on sait qu'il y a des rôles qu'il ne faut pas leur attribuer. Ce n'est pas par les œuvres que l'on est sauvé. Paul le dit et le répète. Alors, on s'en tient à cet aspect négatif et on est tenté de prendre de la distance et de ne pas leur donner beaucoup d'importance. Alors, on n'arrive pas toujours à leur donner positivement la place qu'elles méritent dans la vie chrétienne. Troisième difficulté,
là c'est l'inverse, l'activisme.
Il y a tout un versant de la piété évangélique qui se méfie de l'activisme, c'est-à-dire une vie chrétienne tournée vers les actions, peut-être au détriment de la méditation et de la prière. Cela peut être par négligence ou plus grave, en comptant davantage sur sa propre action que sur celle de Dieu. Et l'on peut être soupçonneux parfois aussi, être tenté de qualifier de chrétien activiste celui qui a le tort d'être plus actif que celui qui parle. On n'est d'ailleurs pas sûr que celui qui dénonce l'activisme soit celui qui passe le plus de temps à la prière et à la piété. Quatrième difficulté, comment définir une action dite chrétienne? Quand je fais quelque chose de bien et qu'un non-chrétien fait la même chose, comment dois-je considérer mon action? Est-elle chrétienne? Ai-je agi en tant que chrétien ou comme un homme parmi les hommes? Pour être chrétienne, une action doit-elle être systématiquement différente de celle qu'accomplissent ceux qui font bien sans référence à la foi? Est-ce qu'elle doit uniquement toucher à la vie de l'Église ou à l'annonce de l'Évangile? Derrière ces questions, il y a celle des débouchés de la foi. Alors, quel éclairage peut nous donner le texte de Jacques? Il se présente déjà comme une vive discussion qui interpelle sur la manière de concevoir et de vivre la vie chrétienne, avec des chrétiens qui seraient dispensés d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Et Jacques s'attaque à ces chrétiens qui se sentent dispensés de concrétiser leur foi et qui disent « J'ai la foi, je suis sauvé et c'est bien comme ça. » Bon, bien sûr, on ne le dit pas si nettement, mais dans les attitudes, c'est quand même un peu parfois ça, non? Et Jacques les interpelle sur la pertinence de leur foi. Que vaut-elle? Que vaut-elle? Et Jacques nous fait cette petite mise en scène. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Eh ben, partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins. » À quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Quelle est la pertinence de la foi si elle n'agit pas? Parfois, la seule réponse adéquate, c'est l'action. Sinon, ça reste un discours creux. À quoi cela sert-il, dit Jacques? Autrement dit, ça ne sert à rien. Et l'apôtre nous invite à évaluer notre foi, nos réactions devant telle ou telle situation. Il nous invite à la cohérence. Ensuite, il nous interpelle sur la vitalité de notre foi. Verset 17. Si la foi ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Verset 20. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, il y va fort, hein, que la foi sans les œuvres est morte? Jacques dit que la foi a besoin des œuvres pour vivre et se développer. Sinon, elle vivote, elle s'essouffle et peut même mourir. Et au verset 26, il la compare à un corps sans esprit, c'est-à-dire un corps mort. Si vous recevez la lettre de Portes Ouvertes et le fil rouge, vous constaterez les effets d'une foi vivante. Si la foi ne produit rien, elle est morte. Elle est comme un corps sans vie. Quelle image ! La foi d'Abraham a été rendue parfaite, portée à son accomplissement, à sa plénitude, parce qu'il est allé au bout de son action, en ayant eu confiance à Dieu et en lui obéissant. À travers cet exemple, Jacques nous dit qu'il y a une perspective positive à accomplir des œuvres. Il n'est pas là, je crois, pour taper sur les doigts de quelques-uns, mais pour dire qu'il y a quelque chose de positif à accomplir les œuvres qui vont nous donner du souffle et de la vitalité à la foi. Il ne dit pas que les œuvres sont des obligations pour la foi, mais elles sont de vraies ressources. Alors la question se pose, comment les œuvres peuvent-elles devenir de vraies ressources pour notre foi ? Bonne question, n'est-ce pas ? Comment les œuvres peuvent-elles devenir de vraies ressources pour notre foi ? D'abord, elles évitent l'épuisement de notre foi qui tourne en rond, en circuit fermé. On décrit souvent la foi avec notre relation vivante avec Dieu. C'est très bien. Mais reconnaissons qu'il ne se passe pas toujours de grandes choses et qu'elle n'est pas toujours aussi vivante que cela. Et on peut avoir cette impression que ça tourne en rond. Je lis ma Bible, je parle à Dieu, c'est bien. Mais sur quoi ça débouche ? On a parfois des difficultés à décrypter l'action de Dieu et on réduit la foi seulement à ce qui se passe entre Dieu et nous. Pourtant, il y a aussi tout ce qui nous relie aux autres. La vie chrétienne ne se vit pas uniquement dans le binôme moi et Dieu, mais elle doit se vivre aussi avec les autres, avec le monde qui nous entoure. Dans les 10 commandements, la première partie concerne notre relation avec Dieu, puis une deuxième partie est consacrée au rapport avec les autres. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ou quoi que ce soit qui lui appartienne. Et lorsque Jésus est interrogé sur le plus grand commandement, que répond-il ? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Mais il continue en disant : et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette relation en triangle entre moi, Dieu et les autres, est bien plus riche que notre seule relation avec Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. On devient alors collaborateur avec Dieu. N'est-ce pas motivant de collaborer avec notre Dieu quand on réalise sa grandeur et sa majesté ? Et après la prière et notre relation avec Dieu, on verra l'action de Dieu vers les autres, ce qui sera un sujet supplémentaire de reconnaissance. Et puis Dieu pourra aussi nous parler par les autres. Assurément, tout cela sera de nature à booster notre foi. Je demande à Dieu d'abord d'agir en moi pour que je puisse agir vers les autres. Et dans cet engagement, je pourrai découvrir la richesse de l'action de Dieu pour moi et en faveur de la situation à laquelle je suis confronté. Dans cette relation, notre foi n'est pas ou n'est plus stéréotypée. Selon les situations, il faudra s'adapter, plus de prières ou d'actions, ou parfois l'inverse. Cette recherche de l'équilibre entre prière et action rend notre foi encore plus vivante. Donc, apprenons à ouvrir notre vision de la foi pour éviter cet épuisement et notre relation qui se limiterait entre Dieu et nous. Comment les œuvres peuvent-elles devenir de vraies ressources ? Deuxièmement, cette action permet à notre foi d'être au cœur de notre vie. N'avez-vous jamais ressenti un décalage entre la foi telle qu'elle apparaît et qu'elle est décrite dans le Nouveau Testament et la manière dont vous la vivez ? Dans le Nouveau Testament, c'est clair que c'est notre vie tout entière qui doit être vécue au regard de notre foi. Paul, l'apôtre, nous dit « Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Colossiens 3, 23. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Colossiens 3, 17. « Tout est expression de ma foi. Faites en tout temps, toute occasion ou circonstance par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Éphésiens 6, 18. On voit là une foi qui est intégrée au cœur de tout ce qui est vécu. Est-ce le cas dans nos vies ? Il me semble que souvent, ou parfois, selon le cas, il y a une foi fractionnée face aux réalités des choses. Il y a ma vie humaine, ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie sportive et d'autres vies, et ma vie spirituelle. Ma foi est bien présente dans ma vie de prière, dans mon temps de méditation de la parole de Dieu, dans mon témoignage, dans les activités de l'Église, comme ce matin. Et encore, si je considère que certaines activités sont moins spirituelles que d'autres. Autrement dit, les moments où s'exerce ma foi sont des moments très ciblés et cloisonnés. Maintenant, si ma foi déborde dans toutes mes activités et que j'ai le désir de faire tout pour la gloire de Dieu, ma foi va me façonner et m'enrichir au contact de tout ce qui fera ma vie au quotidien. Et si j'ai le désir de faire le bien, la question de savoir si une œuvre est chrétienne ou pas ne se pose plus. Ce qui fait qu'une œuvre exprime ma foi, ce n'est pas la qualité supérieure de cette œuvre ou le regard des autres qui pourraient dire « Ah là, ça c'est une œuvre chrétienne. » Faut-il faire autre chose et plus que ce que font les autres ? Ne pouvons pas nous inscrire dans ce qui se fait déjà et qui est bien ? C'est l'intention que j'y mets qui est importante. Je fais des choses même modestes dans le désir de glorifier Dieu et mon Père céleste, qui est dans le secret, saura apprécier ce que je fais. Et cela, c'est l'œuvre de ma foi. Et puis, l'œuvre de ma foi n'est pas forcément liée aux efforts que je fais. Elle est souvent simplement le reflet de mon être intérieur, alimenté par la source d'eau vive dont parlait Jésus. Ce sont nos motivations, nos attitudes, la prière qui accompagne ce que nous faisons en nous rappelant que nous sommes enfants de Dieu et que nous voulons le glorifier dans les grandes comme dans les petites choses. Et c'est tout cela qui donne vie à notre foi. Donner un sourire, avoir un esprit de paix, rester positif, donner un verre d'eau si l'occasion se présente, c'est donner vie à notre foi. On peut semer l'Évangile, bien sûr, mais aussi nous inscrire dans des œuvres humanitaires existantes en faveur de notre prochain et rester disponible pour témoigner. Il y a un champ vaste et ouvert à l'œuvre de notre foi. Nous pouvons vivre notre vie chrétienne avec plus de simplicité, de sérénité, en étant attentifs à ce qui se passe autour de nous. Conclusion. On ne garde pas sa foi pour soi et on agit. Cet été, nous avons évoqué sola fide, la foi seule qui affirme que le croyant reçoit par la foi seule la rédemption accomplie par le Christ. Paul avertissait les chrétiens de Galatie que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Christ. Galates 2,16. Nous avons vu aujourd'hui que si les œuvres ne sauvent pas, elles découlent de la foi vivante et agissante pour la gloire de Dieu. Le but de tout cela, c'est que nous soyons heureux dans notre activité, heureux et zélés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, lui qui a le souci de notre monde et de notre prochain. Paul, aux chrétiens de Colosse, leur écrit « Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Colossiens 13, verset 4. Visiblement, leur foi était agissante. Que dirait Paul à notre sujet ? Beaucoup de belles choses, j'espère. Nous avons posé cette question au début du message. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais nous pouvons répondre pour nous-mêmes. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans ma vie ? Oui, si ma foi est vivante. Que Dieu, notre Père céleste, en Jésus-Christ, nous accorde la grâce, le vouloir et le faire d'accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Mais rappelons-nous que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes les sarments qui devons rester attachés au cep pour porter du fruit, fruit qui le glorifie. Laissons son amour nous nourrir comme la sève nourrit le sarment pour sa gloire et notre bonheur. Amen.